votre santé. Alors, je sais pas si on est confiné, mais en tout cas, on fait quelque chose. Je reçois ce matin le docteur Kaina Oussedig. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, rapprochez votre micro, s'il vous plaît, Kaina. Docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, vous êtes venu avec le docteur Karim Ferry. Bonjour docteur.
Bonjour.
Chirurgien, urologue, et tous les deux, vous avez écrit un best-seller qui s'appelle La magie de la digestion chez Interédition. Pardon. Nous vous avons découvert tous les deux au mois de novembre. Et vous êtes devenu un phénomène sur YouTube. Nous allons parler de bien manger pour bien vieillir aujourd'hui. Alors j'étais en train d'en parler avec vous hors antenne. Alors vous m'avez dit que c'était pas sûr, mais le père des associations alimentaires aurait vécu jusqu'à 100 ans, l'américain Shilton.
Ouais, exactement, tout en faisant attention à son alimentation, à ce qu'il y avait dans son assiette, il a réussi à vivre quand même.
On pense longtemps.
Santé, ouais. Bonne santé.
Oui, lui c'était la dissociation, hein. et puis le jeûne beaucoup. Hein.
Ouais, beaucoup de jeûne et simplifier ses digestions à chaque repas, ne pas trop complexifier son assiette.
L'alimentation est une arme puissante contre le vieillissement. Il y a beaucoup de maintenant une médecine anti-âge, hein, d'ailleurs, qui en parle de plus en plus. Quels sont les aliments qui nous feraient vieillir?
Ouais. Alors, si on a la médecine anti-âge.
Ouais. Bon, la médecine anti-âge, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Ça fait quelques années que j'ai commencé à la pratiquer. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des aliments qui font vieillir? En fait, c'est un ensemble, c'est un mode de vie. Et des aliments que l'on mange dans ce mode de vie qui n'est pas adapté et qui accélère en fait le vieillissement. Mmh. Donc, c'est une hygiène de vie qu'il faut adopter.
C'est global.
Voilà, global. Ouais. C'est pas parce que vous allez bien manger, faire attention à tout ce que vous associez aux aliments qui sont bénéfiques, entre guillemets, pour vous, et qu'à côté, vous allez boire de l'alcool, fumer, tout le bénéfice, il va être perdu. Donc, en fait, c'est une hygiène de vie globale, un mode de vie qu'il faut adopter dans son ensemble.
Alors, Kaina, rappelez-nous quel est le rôle de la biochimie alimentaire.
Alors, la biochimie alimentaire, c'est le devenir des aliments que nous mangeons après digestion. Donc, chaque aliment a un bienfait ou un malfait, et bien l'associer. Si nous associons bien tous nos aliments, nous réussirons à récupérer tous les nutriments et les vitamines de ces aliments-là.
Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la digestion?
Et voilà, lors de la digestion, d'abord, on dit toujours aux gens, attention, attention, une bonne digestion, c'est une digestion qui commence par la mastication. On oublie souvent que bien digérer, c'est bien mastiquer, au moins une minute dans sa bouche. Alors, certaines cultures vous diront aussi mastiquer 30 fois, et tourner l'aliment 30 fois dans sa bouche, ça c'est le démarrage de la digestion. Ensuite, ça passe par l'estomac. L'estomac va faire aussi son job, c'est un muscle. N'oublions pas que cet estomac, pour bien travailler, il faut qu'il reste à 37 degrés, bien au chaud. Et ensuite, ça arrive dans les intestins pour finir la digestion, ou pour certains aliments, c'est là où commence leur digestion. Et lorsque nous mangeons bien associé ces bons aliments, nos petites bactéries, qu'on appelle le microbiote au niveau de nos intestins, va réussir à faire son job, c'est-à-dire transformer tous ces aliments en nutriments, et donc nourrir le corps humain.
Alors, il y a eu beaucoup de commentaires dans les vidéos que vous avez faites, hein, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir revoir les recettes qu'on a depuis toujours pour bien associer les aliments?
Exactement. Les recettes d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir les adapter à notre époque d'aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Quand les gens me disent « Ah, mais Kaina, quand j'étais petit, ou mes grands-parents adoraient boire un grand verre de lait tous les matins ou tous les soirs », je pense que il y a un aliment qui a tellement changé et évolué, qui s'appelle le lait. Et le lait d'aujourd'hui, ce n'est plus le lait de nos grands-parents. Donc voilà, peut-être qu'il faut réadapter certaines recettes ou certaines cuisines avec les aliments d'aujourd'hui, qui sont un petit peu changés, qui ont évolué, qui sont même parfois carencés. Beaucoup moins de vitamines que ça l'a été aux autres années. Donc je pense qu'il faut essayer de s'adapter à l'alimentation d'aujourd'hui. Mmh.
Je ne sais pas si on arriverait à le boire, nous, d'ailleurs, le lait de nos grands-parents. Rien que l'odeur.
Mais il était, à mon avis, beaucoup moins inflammatoire, beaucoup moins de facteurs de croissance que le lait d'aujourd'hui, malheureusement.
Lors de la digestion, notre organisme produit des radicaux libres. Qu'est-ce que ça fait, ces fameux radicaux libres, sur notre organisme?
Alors, en fait, les radicaux libres, c'est quelque chose qui est naturel dans l'organisme. On a besoin de ces sortes de produits de dégradation, en fait, par la mitochondrie, qui est une toute petite cellule qui fait partie de la cellule et qui est l'usine à énergie dans notre corps. Mmh. C'est un peu schématique. Et donc, ces radicaux libres, on en a besoin. Mais il arrive à un moment où ces radicaux libres, ils sont produits en excès. Et c'est là où c'est néfaste pour le corps, parce que ça perturbe la cellule, et quand ça s'accumule de plus en plus, ça peut détruire la cellule, et donc ça altère les fonctions de plusieurs organes, comme par exemple les vaisseaux sanguins, ça augmente la tension. Et lors du vieillissement, on voit que ces radicaux libres, ils augmentent. Mmh. Parce que on a normalement on a des mécanismes qui permettent d'éliminer ces radicaux libres, mais quand on a une alimentation qui est très pauvre en antioxydants, en fait, il y a un excès dans la balance de ces radicaux libres qui fait qu'on peut avoir, par exemple, des problèmes cardiovasculaires, hypertension, AVC, infarctus. Ça fait le lit de l'inflammation chronique. On avait parlé il y a une dernière émission. Et ça peut favoriser aussi le cancer qui apparaît avec l'âge, avec le vieillissement. Donc il y a des aliments qu'on appelle antioxydants qui sont extrêmement importants et qu'il faut absolument manger en quantité.
Moi mes préférés c'est les fruits rouges, voilà. Parce que ça c'est des antioxydants extrêmement intéressants, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, très peu de sucre.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le resveratrol.
Donc
c'est
le resveratrol.
C'est ce qu'on retrouve dans le vin rouge. Donc, mais comme le dit Kaina justement, les myrtilles, les framboises, ce sont nos meilleurs alliés en termes d'antioxydants.
Le cassis aussi.
Eh
exactement.
Oui.
En fait, tout ce qui a de la couleur, tous les aliments qui sont verts, rouges, oranges dans
les
votre
tomates,
assiette, ce sont vos meilleurs alliés. Et dans votre assiette, il faut éliminer tout ce qui est blanc, c'est-à-dire tout ce qui est à base de sucre raffiné.
Ouais.
S'il y a un message à retenir, c'est bien ça.
Mais ceci dit, si on veut être locavore et manger en saison, là, c'est compliqué.
C'est ce qu'on disait, pour
les fruits rouges, pour les tomates par exemple.
Bah, les tomates, on peut en trouver maintenant, on peut les faire sous serre. Les fraises, on les fait aussi sous serre. Après, il y a plein d'aliments. Il y a aussi tous les aliments comme par exemple le chou, le brocoli.
On
peut les manger, qui sont extrêmement riches en organosoufrés. Et ces produits-là sont de puissants antioxydants également.
C'est les meilleures vitamines pour notre microbiote. C'est la famille des choux. On les a longtemps mis de côté en disant non, ça, quand je mange ça, je me sens ballonné, ça fermente, ça fait des gaz. Mais en réalité, c'est un phénomène qui est totalement naturel et qui fait du bien à nos petites bactéries intestinales.
Les aliments à base de bêta-carotène, qui sont précurseurs de la vitamine A, c'est aussi de puissants antioxydants. Ces trois familles d'aliments.
Mangeant des navets, mangeant des brocolis, des choux-fleurs, tout ça, il faut que ça revienne dans notre assiette. C'est très, très important.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle le stress oxydant dont vous parlez là depuis un moment?
Alors, le stress oxydant, ça définit ce que je viens de dire à l'instant, c'est la production de radicaux libres en excès. Et ce stress, en fait, le fait qu'il y ait d'énormes quantités d'oxydants, de radicaux libres dans les cellules, produit ce qu'on appelle un stress. Et ce qui perturbe, altère la cellule.
D'accord. Et c'est ça qui est à l'origine de certaines maladies?
Alors, le stress oxydatif, il serait à la base de l'inflammation chronique.
Parce que ça perturbe aussi nos petites bactéries, et donc elles ne font pas très bien leur job pendant les digestions, et elles s'altèrent aussi. Donc, c'est un tout.
Inflammation chronique, ça donne perturbation du microbiote, ça donne le lit du cancer, du diabète, l'obésité, toutes les pathologies cardiovasculaires qui s'en suivent. Ça altère même les fonctions cognitives, c'est-à-dire au niveau cérébral. Et dans le vieillissement, une des caractéristiques, c'est la baisse de la mémoire, un ralentissement psychomoteur. Et ça peut être lié à ça. C'est une des explications de l'altération des fonctions cognitives pendant le vieillissement.
Et c'est pour ça qu'au-delà de bien manger, justement pour réduire ce stress oxydatif, au-delà de bien manger, on dit aussi qu'il faut préconiser l'activité physique. C'est marcher, bouger, sortir de
chez
soi.
C'est un tout en fait.
Voilà, c'est très très important. Après un certain âge, je pense qu'on se doit de sortir de chez soi, on se doit d'aller marcher un minimum de 35-45 minutes, on se doit de faire du bien de cette manière-là à son corps. Oui, c'est pas que dans son assiette, c'est aussi un effort physique, la méditation, faire du sport, c'est très 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 important. Comme vous le dites, oui, c'est un tout.
Je me souviens, quand on avait commencé les études de médecine, on n'avait qu'une obsession quand on voyait une personne âgée à l'hôpital, c'est de la faire rentrer le plus rapidement possible chez soi. pour éviter tous les problèmes, de rester allongé avec les phlébites et autres. Et maintenant, on n'a qu'un seul mot d'ordre, c'est, on dit aux personnes âgées, sortez. Donc là, le confinement à l'extérieur, c'est une très bonne chose. Sortez, marchez. Sortez,
bougez.
Bougez, plus important.
Quelles sont les défenses antioxydantes dont notre corps dispose?
Alors, les défenses, c'est un peu particulier. C'est souvent lié, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est on absorbe des acides aminés, qui est par exemple la méthionine, qui permet d'absorber ces radicaux libres, parce qu'en fait, les radicaux libres, ils ont un électron qui se balade autour de la molécule, et en fait, toutes ces les antioxydants captent cet électron et permettent de neutraliser en fait ce radicaux libre. Donc c'est un peu complexe, mais et donc il y a normalement, quand on a une alimentation qui est riche et variée, ça suffit amplement à inhiber, neutraliser ces radicaux libres.
On n'a pas besoin d'y penser en fait.
Non.
Si l'alimentation est naturellement variée, on n'a pas besoin de compter de.
Après, il faut aussi savoir que de nos jours, il y a des vitamines que nous ne fixons plus comme avant. Notre corps a évolué, c'est l'évolution de l'humain. On sait bien que autre temps, on disait exposez-vous 15-20 minutes au soleil, vous allez fixer la vitamine D. On sait qu'aujourd'hui, on peut s'exposer 20 minutes, on sera toujours carencé en vitamine D. Ça, c'est un exemple de l'évolution de l'être humain d'aujourd'hui. Donc, au-delà aussi de voir son assiette, de bien la composer, de sortir, de faire une activité physique, etc., je pense que de nos jours, à partir d'un certain âge, faut aussi penser à enrichir son corps de certaines molécules que nous n'absorbons plus et que nous nous synthétisons plus comme avant. Donc parmi ces vitamines-là, on a la vitamine D. Bon, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Donc on voit que les gens à partir d'un certain âge vont demander carrément à leur généraliste, je voudrais une ampoule de vitamine D. Ils vont être soucieux de prendre leur ampoule de vitamine D une fois par mois, etc. Mais maintenant qu'on parle aussi du microbiote, faut pas oublier que le microbiote, lui, les vitamines qui peuvent l'aider au-delà de la vitamine D, sont la vitamine, la B9 et la B12. C'est vrai qu'on la voit de moins, on la voit pas beaucoup en
Alors,
France, on l'utilise pas
B12,
beaucoup.
C'est-à-dire?
C'est une vitamine qui est essentielle. Voilà, c'est une vitamine qui est essentielle à notre microbiote. Et on a vu que l'organisme l'a fixée de moins en moins avec l'âge. Et donc en réalité, c'est bien de penser à la vitamine D, mais aujourd'hui il faut aussi sensibiliser les gens à la B9 et à la B12.
Et la B9, on la trouve où?
Alors la B9, c'est on peut la trouver
le brocoli,
dans les choux.
C'est nos meilleurs alliés.
Voilà, on peut les trouver aussi dans les poissons, les sardines, là où on trouve souvent une richesse en oméga 3, on peut trouver aussi de la B9 et de la B12. Donc il y a saumon, thon, sardine, maquereau, le foie, etc. Ça aussi c'est très riche.
Les abats.
Exactement, les abats, c'est très riche.
C'est vrai que avec Aïna, on n'est pas trop pour les compléments alimentaires, mais vu l'alimentation actuelle. Il y a certains compléments, je pense, dont on ne peut pas faire l'impasse, notamment la vitamine B, B9, B12, la vitamine D, mais il y a aussi, on peut aussi prendre des compléments pour les ions, comme le magnésium, le cuivre, qui sont de puissants agents antioxydants, donc il ne faut pas hésiter. Dans la médecine anti-âge, on fait des bilans sanguins qui ne sont pas superflus et qui permettent de voir un peu vos différents taux, et on peut les complémenter avec quelques compléments alimentaires qui sont, ma foi, une bonne chose, mais pas en excès.
On tombe pas dans un autre travers dans ce cas-là, c'est-à-dire que bon, on prend plus de médicaments allopathiques, mais à ce moment-là, on se retrouve avec une armoire pleine de compléments
alimentaires. Il ne faut pas aller en excès, il faut prendre 3, 4, 5 compléments maximum.
Après, il y a aussi ce qu'on appelle les aliments pas magiques, mais c'est vrai que c'est des aliments qui sont complets de tout. Vous voulez prendre un aliment qui peut vous couvrir en B9, en B12, en zinc, en cuivre, etc. et le faire, ça s'appelle par exemple la spiruline. C'est une algue qui est naturelle, et il y a de plus en plus de gens qui... Alors la spiruline est produite en France, donc on peut consommer local, mais c'est une algue qu'on peut utiliser et qui est extrêmement riche de tous les minéraux et de toutes les vitamines. Parce que là, on parle de bien vieillir et avoir toujours une bonne santé, ça passe par ça aussi.
C'est-à-dire que la spiruline, elle réunit tout ce qu'on vient de dire.
Exactement.
Il faut trouver le bon labo et la bonne spiruline.
Mais si vous avez votre alimentation variée, vous avez l'alimentation variée, il n'y a pas beaucoup de compléments à apporter dans votre alimentation.
Ouais, il y a certains aliments comme ça, un petit peu, que les gens utilisent. Et
un
c'est
peu
vrai
de fer ou autre, mais voilà, mais c'est pas énormément.
Ouais.
Bien manger pour bien vieillir. Kaina, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent que vous expliquiez vraiment comment ça fonctionne, les bonnes associations d'aliments aussi. Alors, vous nous direz tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai que c'est pas compliqué, mais il faut avoir un référentiel en tête. Et puis, vous pouvez poser directement vos questions au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant.
Bien manger pour bien vieillir. On en parle ce matin avec mes invités. Le docteur Kaina Oussedik, docteur en biochimie moléculaire, et le docteur Karim Ferry. Et tous les deux, vous avez écrit La magie de la digestion chez Interédition. Alors, les dernières études sont d'accord, hein. Plus de la moitié des risques de cancer sont évitables, notamment grâce à notre alimentation. On parlait du cancer colorectal tout à l'heure, docteur Ferry. Alors,
les études montrent que 50% des cancers peuvent être évités et surtout, quand on a une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, on peut diminuer de 50% la récidive du cancer. Par exemple, le cancer colorectal, il a été montré que manger de la viande rouge cuite au barbecue, manger des viandes transformées, c'est un facteur de risque indépendant du cancer colorectal. Manger trop de sucre aussi est un facteur de risque. Donc, on peut facilement améliorer notre alimentation en mangeant plus de fruits et de légumes, diminuer le sucre, diminuer la viande. Alors la viande, on ne demande pas de l'arrêter, parce que quand on vieillit, on a besoin de protéines, parce qu'on a une fonte de la masse musculaire, on a de l'ostéoporose, donc il faut bouger. Pour bouger, il faut avoir des muscles. Mais manger de la viande une fois à deux fois dans la semaine, la viande rouge, on peut par contre manger des viandes blanches, des viandes maigres comme la dinde, le canard, le poulet, et surtout manger l'argamanu du poisson. Mmh. Et il n'y a pas que les protéines animales.
On peut manger quoi ?
L'argamanu du poisson.
L'argamanu. Moi, je connais Manuel Mariani, mais l'argamanu.
Alors, c'est du latin à profusion.
On peut manger
des poissons, surtout les petits poissons, hein, parce qu'ils peuvent être riches en produits toxiques. Donc, il faut manger de la sardine, du hareng. Et il y a aussi les protéines végétales qu'il ne faut pas négliger. Il faut manger un plat de lentilles ou un plat de fèves. Il y a pas mal de protéines. Alors, elles sont, entre guillemets, de qualité un peu moindre que les protéines animales, mais elles font le job. Donc, on en a besoin.
Et après, souvent, les gens vont nous dire « Ah, mais dans le poisson, il y a des métaux lourds, dans les légumes, il y a des pesticides, dans les fruits, on ne peut plus manger la peau, c'est aussi plein de pesticides, comment allons-nous faire ?» Alors, souvent, la solution, c'est que tout ce qui concerne les aliments tels que les protéines animales, donc ce que disait là le docteur Ferry, les poissons, les volailles, les légumes, il y a de plus en plus de personnes qui vont les mettre à la vapeur.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'avant de mettre son poisson en papier au four, avant de mettre son légume dans sa soupe ou avant de mettre son légume dans sa poêlée, etc., eh ben, il faut avoir cette habitude de passer à la vapeur ses aliments. C'est-à-dire qu'on met sa couscoussière ou sa cocotte et on met l'eau à bouillir. Une fois que l'ébullition est là, 100 degrés, on met les légumes et les protéines par-dessus. Et donc, du coup, là, on a tous les métaux lourds et tous les pesticides qui tombent. C'est une
manière. Combien de temps
En général, c'est 10 minutes, on dit en moyenne, pour que les pores des protéines, pour que les légumes, etc., puissent larguer tous ces polluants-là. Et donc, au bout de 10 minutes, on peut continuer la cuisson comme on le souhaite, mais là on vient de rendre propre ces aliments. Donc à partir de cette méthode, en réalité, on peut encore diversifier et manger et se permettre de manger de tout. Juste voilà, avoir cette méthode de se dire que je mets tout à la vapeur à 100 degrés, 10 minutes environ.
Ça marche pour mon poisson aussi.
Ça marche pour mon poisson, okay. Ça marche pour mes légumes. Alors souvent, les gens quand ils font ça, ils vont me dire « Oh, tu nous avais pas dit, mais en bas quand on a vu l'eau en dessous, oui, mais c'est le but, c'est nettoyer.
Voilà. » Faites le test chez vous ce soir. Ouais.
Et regardez les jolies couleurs en bas, mais ce n'est pas utilisé.
Il faut se forcer à acheter les aliments. Il ne faut pas que ce soit une excuse en disant « Il y a de la pollution, donc on ne va pas faire notre marché. » Il faut acheter les aliments, il faut préparer ses repas et ne plus prendre d'aliments transformés, les plats tout préparés qui sont bourrés de sucre et d'acides gras trans qui font le lit de l'inflammation et du cancer. Exactement. Donc cuisinez, faites votre marché.
Alors je vois souvent les messieurs et les dames me dire « Oh là là !» Tous les samedis, tous les dimanches, faut aller au marché 2 heures acheter les légumes.
À quoi ça sert que Picard se décarcasse?
À quoi ça sert? Eh ben, je dis que 2 heures de marché par semaine, c'est 2 ans de vie gagnée en plus. Parce qu'ensuite, on va cuire ses légumes, on va manger ses fruits, on va manger ses protéines. Donc, c'est pas une corvée. C'est, on se fait du bien et on fait du bien à sa famille, à ses enfants. Donc, faut revoir ses priorités peut-être. Et parmi ses priorités, bah, se dire que se lever le week-end, aller au marché, c'est quelque chose de très très bénéfique pour nous sur toute la semaine, et pour nous et pour nos enfants, et pour les décennies à venir après. Donc 2 heures de marché, c'est 2 ans de vie gagnée.
Vous avez compris, 2 heures, hein, pour 2 ans. Comment l'alimentation peut-elle prolonger donc la longévité des organes et des tissus et nous faire apparaître plus jeunes?
En fait, quand on vieillit, il y a plusieurs phénomènes qui apparaissent et qui arrêtent la multiplication et la division cellulaire. Et quand on a une mauvaise alimentation, je vais prendre l'exemple du sucre. Alors ça va être un peu théorique, mais quand on mange trop de sucre, en fait, il se passe dans l'organisme ce qu'on appelle une réaction de Maillard. C'est comme quand vous faites cuire du sucre à la poêle, ça devient du caramel. Et en fait, le sucre, il va se fixer sur toutes les protéines de l'organisme. Quand les diabétiques savent très bien, on doit mesurer leur hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est simplement le reflet du sucre qui vient se fixer sur l'hémoglobine. Donc si vous mangez trop de sucre, vous avez les protéines qui s'altèrent. Et donc, les protéines, c'est l'élément de base de tous les fonctionnements des organes. Et donc, par exemple, au niveau des vaisseaux sanguins, ils deviennent hyper épais, ils deviennent durs. Il y a de l'athérosclérose, ce qui fait de l'hypertension, ce qui favorise après les infarctus, les AVC. Et donc après, des problèmes pathologiques avec, à la fin, la mort.
Voilà. Et là, on parle du sucre blanc.
Ouais. Tout à fait.
Oui. Hein? Oui. Souvent, les gens me disent le sucre complet, celui qui sort directement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Donc, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus maintenant sur les étalages des supermarchés. Le sucre complet, celui-ci, il n'est pas transformé. Celui-ci, on peut l'utiliser pour faire ses gâteaux, pour sucrer, etc. Beaucoup moins nocif. Vaut mieux celui-ci que le candérel ou des choses comme ça, ou l'aspartame.
Alors, on parlait des produits ultra transformés. Il existe des applications qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Vous avez Open Food Fact, par exemple, ScanUp, ouais, qui vous dit, vous utilisez laquelle?
J'avais travaillé avec quelques, alors, une start-up comme ça qui avait fait, voilà, c'est pour venir vous scanner vos aliments en surface et on vous dit si c'est bon, pas bon,
c'est
etc. Yuka,
et
en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, le plus simple, si on veut faire ses courses bien et rapidement, le plus simple, c'est d'acheter des aliments qui, lorsqu'on tourne le paquet, les ingrédients ne sont pas... Voilà, exactement. Ça fait pas toute une liste d'ingrédients. Si je dois acheter quelque chose à base de brocoli, c'est brocoli et c'est pas 15 ingrédients derrière. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a saisi. C'est achetant des aliments où le nombre d'ingrédients est très petit.
Alors, on parle d'un équilibre, c'est l'équilibre acide et base, Kaina.
Oui. Alors, il faut pas confondre. Il y a plusieurs équilibres dans le corps humain. Faut pas confondre, par exemple, se dire d'abord que son tube digestif, son microbiote, n'est pas dans un équilibre réel. Il est plus acide. Voilà. Mon tube digestif, il est acide. Mon estomac est acide. Toutes les étapes de la digestion avec les sucs, c'est acide. Ça, c'est à part. Parce qu'il y a souvent cet amalgame. Alors, mon tube digestif doit être basique parce qu'il y a un équilibre acido-basique ou... Non.
Expliquez-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit rechercher comme équilibre.
Exactement. Dans le tube, on va plutôt rechercher cette partie acide. Parce que dans le tube, pour bien fonctionner, nos sucs sont acides. Et donc, pour qu'ils fassent bien leur job de digestion, il faut rester dans un milieu majoritairement acide. Alors que, une fois que la dernière étape de digestion a été faite dans nos intestins et qu'ensuite il y a le début de l'absorption, donc ces nutriments, là on parle plus d'aliments, on parle de nutriments parce que la digestion est passée par là. Là, les nutriments, quand ils s'échappent de la partie basse des intestins, là où se passe l'absorption, donc là, ils vont fuiter, ils vont aller vers le système sanguin et là, dans le système sanguin, on va parler de ce fameux équilibre acido-basique suivant certains organes. Donc, faut pas faire la mal. Et aussi, il y a un autre problème qui revient souvent, c'est on me dit le citron, c'est alcalin. Non, quand on parle de citron, ça c'est un très bon exemple, c'est un aliment. Donc le citron en tant qu'aliment, il est acide parce qu'il est riche en vitamines. Et sa vitamine principale, c'est l'acide ascorbique, vitamine C. Donc lorsqu'on parle de lui en tant qu'aliment, il est acide. Par contre, quand il va passer toutes les étapes de digestion et que lui va arriver aussi à l'étape de l'absorption et là où il s'est transformé en nutriments, là, effectivement, ces nutriments sont alcalins. Donc, faut vraiment faire attention à tous ces compartiments du corps et faire attention à lorsqu'on parle d'aliments, ils sont soit acides, soit neutres, etc. Mais lorsqu'on parle de leurs nutriments derrière, effectivement, ils peuvent donner des nutriments soit acides, soit alcalins, soit basiques. Mmh. Voilà. Ça, il faut vraiment l'avoir comme notion.
Pour ajouter, il faut que dans le corps, il y ait un équilibre acido-basique, il faut avoir un pH neutre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est manger des fruits et des légumes, même s'ils sont en tant qu'aliments acides, c'est eux qui permettent d'apporter, de faire augmenter le pH et que le corps soit basique.
Exactement.
Et les aliments qui rendent le pH acide, qui fait le lit de l'inflammation et du cancer, ce sont
les
par exemple, ce sont les viandes transformées, voilà. Les laitages, les protéines, ça, il faut le diminuer. Donc, manger beaucoup de fruits et de légumes pour rendre votre pH basique. Sur quoi il faut tendre.
Alors que quand on mange des viandes transformées ou riches en ce qu'on appelle les facteurs de croissance.
Ce qu'on appelle les viandes transformées, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est?
Aujourd'hui, quand on parle de vaches, on parle de vaches super laitières. Ben, celles-ci, elles sont transformées. Parce que la vache d'avant, de nos grands-parents, donnait 7 litres de lait par jour. La vache d'aujourd'hui, elle en donne 28. Donc on ne peut plus dire que c'est une vache. C'est une super vache.
La charcuterie, c'est de la viande transformée.
La VSM, ça.
La charcuterie, c'est passé dans l'OMS comme facteur de risque cancérigène.
Voilà, c'est tous ces aliments-là, lorsque nous les mangeons.
Alors, là, c'est quand on parle de charcuterie industrielle, bien sûr.
Exact.
Mais parce que si c'est de la charcuterie, peut-être qu'on va acheter chez son charcutier ou chez un artisan. Est-ce que c'est la même chose?
Il met quand même beaucoup de sel dedans. Il y a des nitrosamines. C'est des éléments qui sont nocifs pour l'organisme et ce qui favorise le stress oxydatif dont on a parlé en début d'émission.
Manger avec modération.
Voilà, donc la charcuterie de temps en temps, mais qu'elle soit industrielle ou fabriquée par votre artisan, je pense que c'est mieux de l'éviter. Il y a tellement d'autres aliments que
l'on peut manger. Parce que trop salé, c'est ça?
Trop salé, trop...
Trop fumé.
C'est pas fait avec... Ouais. C'est fumé, comme vous dites, le mode de cuisson à haute température. C'est pas une bonne chose pour votre organisme. Vous augmentez l'acidité.
Et ça, par exemple, ça donne des nutriments acides. Ça, une fois transformé, ça va donner des nutriments acides et vont venir acidifier davantage
notre pH
sanguin. Donc,
mais c'est plusieurs petits éléments. Au fur et à mesure, plus vous les associez et plus vous allez avoir une hygiène de vie de plus en plus équilibrée et vous aurez des bénéfices. Alors, ça apparaît pas tout de suite, mais il faut du temps.
Mais après, il faut pas oublier les plaisirs. Faut toujours trouver cet équilibre.
Ouais. Pour les plaisirs, il y a une machine dans le couloir là-bas.
Je l'ai vu.
Non, mais avec Kaina, surtout dans sa méthode d'association alimentaire, elle n'est jamais dans la suppression. On est vraiment dans la diversification.
Vous n'avez pas la machine qui distribue.
C'est interdit.
Il faut diversifier son alimentation, pas se restreindre. Tous les régimes où il y a de la restriction, à mon sens, ça ne va pas tenir la route et vous aurez des carences, quoi qu'il en soit, et puis vous serez frustré. Donc il faut bien associer et varier.
Bien manger pour bien vieillir. Alors on en parle ce matin, si vous avez des questions à poser. Vous les posez au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant.
Bien manger pour bien vieillir avec le docteur Kaina Ousedi qui est avec nous aujourd'hui, docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, et le docteur Karim Ferry, là également, vous êtes chirurgien urologue, et je rappelle que vous avez écrit tous les deux La magie de la digestion chez Interédition. On verra tout à l'heure les bonnes combinaisons alimentaires. Qu'est-ce qui se passe par exemple sur le microbiote quand il voit arriver des conservateurs, parce qu'on parlait de des produits ultra transformés tout à l'heure. Quelle est l'action de ces conservateurs sur notre microbiote?
Alors souvent, on dit, c'est très très important de faire la nuance entre le tube digestif qui lui est resté primitif, c'est-à-dire comme celui de Cro-Magnon, et la population à l'intérieur qu'on appelle maintenant le microbiote, donc la flore intestinale, qui elle a évolué avec le temps. Et malheureusement, même si cette population a évolué, elle a suivi son époque, elle s'est adaptée à l'époque d'aujourd'hui, mais attention, c'est pas non plus de la haute technologie, je dis toujours que c'est pas 2.2, les bactéries ne savent pas, n'arrivent pas et ne peuvent pas prendre en charge les conservateurs, les acidifiants et toutes les molécules chimiques et synthétiques.
Elles ne savent pas, même aujourd'hui.
Voilà, même aujourd'hui.
Elles ne se sont pas habituées, elles ne se sont pas adaptées.
Alors, ce qu'elles ont fait par contre, c'est qu'elles nous ont quittés. C'est qu'elles ont décidé de plus se loger chez nous. Donc, à partir du moment où une personne va manger beaucoup d'aliments cuisinés, beaucoup de chimie, beaucoup de sel, beaucoup de choses transformées, ces bactéries vont le quitter. elles vont partir, elles vont décider de s'en aller parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter à cette alimentation-là. Et quand les bactéries commencent à s'en aller, c'est ce qu'on appelle les dysbioses, le déséquilibre. Donc il y aura de moins en moins de bonnes bactéries, de moins en moins de bonnes espèces. Et rappelons-le quand même, un microbiote à l'équilibre, c'est un microbiote qui voit au moins dans son tube digestif apparaître au moins 160 espèces. Donc on doit maintenir cette diversité bactérienne et pour la maintenir, il ne faut pas trop manger de ces aliments-là transformés ou raffinés, parce que sinon elles nous quittent.
Finalement, ces aliments trop modifiés et trop transformés ont modifié notre façon de digérer.
Exactement.
Ça a accéléré le vieillissement. Le microbiote, c'est relié au cerveau. Et quand on vieillit, la maladie d'Alzheimer, c'est celle qui apparaît le plus fréquemment, qui est liée, je vous le rappelle, des troubles de la mémoire, des désorientations. Et on a remarqué que les gens qui avaient une maladie d'Alzheimer avaient aussi une dysbiose, comme vient de le dire Kaina, avec un déséquilibre de la flore. Donc je pense que si on a une flore intestinale que l'on préserve tout au long de sa vie et de son vieillissement, on peut prévenir, ralentir l'apparition des troubles cognitifs comme la perte de mémoire, la désorientation ou autre. Donc préservons le microbiote.
Alors Kaina, quel est le secret des combinaisons alimentaires à respecter ?
Alors par exemple, souvent les gens vont me dire, Kaina, si je mets de l'huile d'olive dans mes légumes, est-ce que c'est quelque chose qui convient à mon microbiote, à mes bactéries ? La réponse est oui, l'huile d'olive est l'une des huiles qui, à mon sens, est la plus riche, la plus complète en minéraux et en vitamines. Lorsque nous mangeons, par exemple, des haricots verts, des poireaux, des asperges qu'on a fait cuire 10 minutes à la vapeur pour enlever tout ce qui est métaux lourds, toxiques, etc. Et qu'ensuite, on a mis le filet d'huile d'olive, on a accompagné ça d'un poisson, d'une volaille, et qu'on a fini par un yaourt de brebis ou de chèvre, là, en réalité, ce repas s'est composé d'oméga 3, c'est composé de fibres de ces légumes, c'est composé de protéines animales pour la masse musculaire et c'est composé de yaourt pour nous, ce qu'en appelant dans le microbiote, les lactobacillus. Les lactobacillus, c'est une des familles de notre microbiote qui nous préserve et qui nous permet d'être à l'équilibre. Et elles adorent les produits laitiers. Mais les produits laitiers de bonne qualité.
Oui, parce que Karim disait tout à l'heure que, par exemple, pour le cancer, les produits laitiers...
Fallait faire attention.
Oui. Voilà.
Modérément.
Modérément.
Mais je rebondis sur ce que vient de dire Kaina. L'exemple qu'elle a utilisé, il est parfait. Ça illustre le repas qu'elle vient de décrire. Ce que l'on doit manger, par exemple, dans le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, ça a été prouvé scientifiquement que quand vous adoptez cette hygiène de vie, cette façon de s'alimenter, vous gagnez 2 ans en espérance de vie. Et le régime méditerranéen, c'est ni plus ni moins que manger des fruits et des légumes à profusion, manger de l'huile d'olive riche en oméga 3, oméga 6, oméga 9, tout ce qui est bon pour votre microbiote, pour votre organisme, diminuer la consommation de viande rouge et faire de l'exercice. Alors, il rajoute de temps en temps un verre de vin rouge, mais vous mangez des framboises ou du cassis, c'est aussi bien.
C'est pareil.
Voilà. Et lorsque nous souhaitons manger nos légumes crus, parce qu'il y a aussi un bienfait de manger certains légumes crus, alors là, il faut juste avoir le réflexe de les laver comme faisaient nos grands-parents aussi, c'est les laver avec une cuillère de vinaigre. On met une petite bassine d'eau, on la remplit, 1 litre, c'est une cuillère à café de vinaigre blanc, où on peut rajouter un petit peu de bicarbonate, on met à tremper tous les légumes que nous souhaitons manger crus, et ensuite, on les nettoie, enfin on les sèche et comme ça on peut aussi les consommer crus sans qu'il y ait de petites moisissures ou de petites bactéries ou de petits pesticides par-dessus. Toutes ces techniques-là sont bonnes pour avoir de belles assiettes colorées et donc faire du bien à son microbiote.
D'accord. Est-ce que Kaina, vous lavez votre poulet? Vous pouvez tout nous dire.
Je laisse répondre.
Alors mon poulet, je le mets à la vapeur et ensuite je le rôtis au four.
Ça sentait le nettoyage quand même, je veux pas dire, un peu la maniaquerie. Quels sont les principes de votre méthode et comment, sur quoi elle repose pour associer les aliments, pour que les gens comprennent bien?
Alors le principe de cette méthode est basé sur ce qu'on appelle les optimisations de la digestion. Il faut se dire qu'à un certain âge, quand on a fait subir à notre corps les polluants, les perturbateurs endocriniens, etc., à partir d'un certain âge, il a montré justement qu'il n'acceptait plus de digérer certaines familles d'aliments parce qu'elles lui prenait beaucoup d'énergie. Donc il y a des digestions qui consomment beaucoup d'énergie. Et à partir d'un certain âge, entre bien vieillir ou consommer beaucoup d'énergie à sa digestion, bah, le corps essaye de faire des économies d'énergie. Donc il va refuser de digérer certaines combinaisons parce que lui, il pense bien faire, il pense faire des économies d'énergie pour bien vieillir. Et malheureusement, lorsqu'il fait ce genre d'action, donc refuser de digérer certaines combinaisons alimentaires, c'est malheureusement quelque chose qui va se voir sur nous au niveau de la ceinture abdominale. Donc le tube digestif va commencer à tapisser tout autour de lui. Et parmi ces combinaisons que souvent on retrouve après la ménopause, après 45 ans, cette fameuse combinaison que le corps ne veut plus digérer s'appelle la combinaison amidon acide. Les acides, c'est tout ce qui est riche en vitamines, acide ascorbique, acide folique, tout ce qui est riche en vitamine C, en B9, en B12, en vitamine E, etc. Ces aliments-là, ce sont des aliments acides reconnus par la salive en tant que tels, et en parallèle, on a ce qu'on appelle les amidons, les céréales, les pommes de terre, les légumineuses, etc. Ça, c'est reconnu comme des aliments amidonnés, et à partir d'un certain âge, manger les amidons et les acides dans le même repas, le tube digestif ne va pas les prendre en charge.
Alors, ça fait quoi si on traduit en aliment ?
Ça va putrifier, ça va faire des fermentations négatives, et donc ça va faire ce qu'on appelle des masses indigestes qui finiront comme un stockage.
D'accord. Ça fait quoi ? Alors, amidon, c'est quoi ? Pâte ?
Amidon, c'est pâte.
Pommes de terre,
ouais. Navets, petits pois, carottes, betteraves, le riz. Aussi est un amidon. Si par exemple je fais du riz avec des légumes ou je fais des pâtes avec une ratatouille, du fromage, là je suis bien associé. Donc je fais ma ratatouille, je la rajoute sur mes pâtes, je rajoute un petit peu de fromage, là je suis bien combiné. Mais si je me dis qu'à la fin de ce repas, qui était un peu trop riche, faut manger quelque chose de plus light, et là je vais vers un fruit, là je viens de stocker mon assiette de pâtes.
La pastèque.
Ou la pastèque couscous.
C'est votre exemple, pastèque couscous, mauvaise.
Mauvaise association.
Pourtant, c'est un classique.
Malheureusement.
Hein. Amidon et protéines, ça fonctionne ou pas ?
Ça fonctionne, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop faire, car les protéines animales sont quand même des aliments très complexes à la digestion, les amidons aussi, et manger comme ça des repas trop riches à chaque fois, c'est pas non plus bon pour l'organisme. Voilà. Donc c'est plutôt faire des protéines animales avec des fibres comme les légumes verts, etc. Ou plutôt faire les amidons, pâtes, riz, petits pois, carottes, pommes de terre, patates douces, quinoa avec des légumes et un petit morceau de fromage. Mais voilà, il faut apprendre à faciliter ces digestions, à bien les combiner pour récupérer tous les nutriments possibles.
Alors, on a pris l'exemple du citron tout à l'heure parce que c'est un exemple qui revient souvent. Par exemple, le citron, c'est quelque chose qu'on associe au poisson.
C'est ça. Et malheureusement, nous allons mettre le citron sur le poisson et à côté, on va manger du riz. C'est tout ce qui ne va pas. Donc souvent, les gens me disent, pourtant, j'ai
besoin... Alors, expliquez pourquoi ça ne va pas. Ici.
Alors, ça ne va pas parce que le citron sur le poisson, ça, c'est une bonne combinaison. Par contre, comme on a acidifié le poisson avec ce citron, on mange à côté les amidons qui sont le riz, donc le riz et le citron... Ce n'est pas une bonne combinaison.
Ça marche pas avec les patates non plus.
Ça marche pas avec les patates non
Par
plus.
Par contre, petits pois.
Petits pois non plus.
Non
ce
plus.
Sont des amidons. Ça marche pas non plus. Oh, et oui, donc manger.
Haricots verts.
Ah, parfait.
D'accord.
Faire son poisson avec son citron et manger les haricots verts ou la ratatouille à côté, on est bon.
Il faut manger des fibres pour nourrir le microbiote. Parce qu'il a besoin de ça pour produire, entre guillemets, les acides gras à chaîne courte dont le cerveau a besoin. En fait, pour se développer. Donc, vous nourrissez votre microbiote en mangeant énormément de légumes verts et de fruits.
C'est des et qu'ils ne peuvent avoir un bienfait que lorsqu'ils sont bien combinés.
Combinés, voilà.
Bien associés. Quelles sont les autres associations qui sont courantes, qu'on devrait éviter ?
Alors, les associations courantes, c'est lorsque nous souhaitons manger des avocats avec du citron. Ça, par exemple, c'est une très bonne combinaison. Citron-avocat, ça permet de récupérer tout le bienfait qu'il y a dans l'avocat avec les vitamines qu'il y a dans le citron. Ça, c'est une combinaison qu'on me demande souvent et c'est une parfaite combinaison. Par contre, mettre cette combinaison sur du pain, là, nous sommes foutus.
Ou de manger du pain avec.
Voilà, exactement. D'accord. Le pain, c'est un amidon. Ouais. Et donc, le citron et le pain, ça ne va pas non plus.
Avec l'avocat, si je fais une sauce à la moutarde, ça marche ou pas ?
Avec l'avocat, si je fais de l'acide, ça marche très bien.
C'est une vinaigrette à la moutarde.
Exactement. Bon. Par contre, il ne faut pas que je l'associe avec du pain.
On en revient avec le pain.
Exactement. Et on en revient avec le pain.
Voilà. Donc pareil pour le guacamole. Donc guacamole pain, c'est pas une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, on peut manger ça avec des petites feuilles d'endive, avec des petites feuilles de sucrine, avec voilà, apprenons à innover pour faire du bien à sa digestion.
Quoi, guacamole et nachos,
faut pas faire.
Hein. Ouais, c'est, non, c'est ça que j'ai pas entendu.
C'est pire que tout. Aliment transformé, plus amidon, plus acide, ah, ça va pas être digéré, ce sera pas bon.
C'est peut-être bon pour le goût et pour le plaisir que vous aurez au moment de manger, mais pour la digestion, c'est pas terrible. C'est ça que vous voulez
moi,
dire.
Moi, souvent, quand je montre le tube digestif à quelqu'un avec les mauvaises associations, il a plus le plaisir de faire du guacamole et des pizzas.
Vous parlez du goût, Philippe, mais dans les régimes méditerranéens ou autres, ce qui donne du goût, ce sont les épices.
Et
les
herbes,
épices, ce sont nos meilleurs alliés.
Dans les chips, c'est le sel. Hein. Ouais. On enlève le sel.
Dans le poivre, le curcuma, le gingembre, ce sont nos meilleurs alliés. Le romarin, le tilleul.
Il faut
tilleul.
Que tout ça fasse partie de notre assiette.
C'est des antioxydants, c'est hyper important. Et
alors,
ça vous aide.
Karim, pour terminer, c'est vrai qu'on parle beaucoup du régime méditerranéen, mais il y a un régime dont on parle de plus en plus. C'est le régime de l'île d'Okinawa, donc au Japon.
C'est ce qu'on appelle la ceinture bleue, en fait. C'est des îles ou des régions du monde où il y a le plus de centenaires. Et en fait, il y a l'île de Crète, la Sardaigne et l'île d'Okinawa, qui est au sud du Japon, où c'est l'île qui présente le plus de centenaires au monde. Ils sont des milliers. En sachant, par exemple, qu'actuellement, il y a à peu près 10 000 centenaires en France, en 2060, selon l'INSEE, on sera plus de 100 000 centenaires. Donc, on peut faire partie de ces gens qui peuvent vivre longtemps. Parce que l'organisme, normalement, il est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans. Les tortues, c'est 100 ans. Mais nous, si on fait bien attention, on peut, si on n'a pas de maladie...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, mais on ne vit pas forcément de plus en plus vieux en meilleure santé. C'est ça,
en bonne santé,
c'est ça
sans
la,
handicap.
La problématique.
Ce qu'il faut, c'est avoir une vie sans handicap, être le plus autonome possible au niveau physique et social. Et donc, pour revenir à l'île d'Okinawa, ils ont des principes de vie. C'est comme dans le régime méditerranéen, beaucoup de légumes et de fruits, peu de viande. Par contre, eux, ils sont un peu restrictifs au niveau des protéines. Ils mangent pas de produits laitiers. Et ils associent aussi la restriction calorique. Donc, ils diminuent, ils mangent des petites portions et ils ne finissent jamais leurs assiettes. Ils vont pas jusqu'à la satiété, jusqu'à ne plus avoir faim.
Ils vont jusqu'à 80%. Il faut jamais dépasser 80%.
Mais en même temps, c'est des gens qui n'ont pas fait le tour du monde. Donc, ils sont restés quand même sur leur...
Sur leur île.
Ils ont même montré que les gens qui ont émigré au Brésil, au bout de 10 ans, ils ont perdu tout le bénéfice de l'île d'Okinawa parce qu'ils ont changé leur mode de vie.
Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que vous pouvez lire La magie de la digestion chez Inter Édition. Merci tous les deux d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Et très belle journée santé
Merci
sur beurrefm.
Au revoir.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.